Bonjour Aurélien Bernier.
Bonjour.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le climat aux tâches de la finance. On est actuellement à Reclaim the Field, une rencontre de jeunes paysans européens avec l'appui de la Via Campesina, une organisation internationale de paysans. Et tu viens d'animer un atelier sur la thématique finance carbone et tout ce marché des droits à polluer qui a été inauguré avec le protocole de Kyoto, ou en tout cas qui a été vraiment développé au sein du protocole de Kyoto. Et juste avant Copenhague, j'aimerais bien qu'on puisse revenir sur cette thématique-là, que tu nous expliques quel est le problème avec ce mécanisme qui doit nous servir à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors déjà, d'où est venue cette idée de marché carbone?
Alors cette idée, elle est venue d'économistes, et c'est une idée qui est fondamentalement libérale. Puisqu'on a des économistes qui ont réfléchi à la question notamment de l'environnement, de la protection et de la dégradation de l'environnement, et qui ont estimé que si l'environnement était dégradé, c'est qu'il n'avait pas de valeur marchande. Et que donc, il fallait lui donner une valeur marchande, et il fallait que le marché détermine le prix optimum pour réduire la pollution ou pour continuer à polluer, sans intervention de l'État. Surtout, ça c'était le truc à éviter absolument. Et donc, un économiste en particulier préconise de créer des marchés de droits, c'est-à-dire de donner des droits de propriété sur l'environnement, et ensuite de permettre que ces droits soient achetés ou vendus par les gens qui les ont. Et c'est le prix du marché qui permet de déterminer le coût de la protection de l'environnement.
Donc en fait, on a un marché avec une offre, une demande et une bourse qui est créée.
Exactement.
Pour animer ce marché-là.
Exactement. Donc on délivre des droits de propriété sur l'environnement. Et en matière de gaz à effet de serre, ça sera des quotas. Comme on a des quotas laitiers, comme on a des quotas de pêche, on va donner des quotas aux entreprises qui émettent des gaz à effet de serre, donc un certain volume de quotas. Et une entreprise qui n'en a pas reçu assez en achètera sur le marché, et une entreprise qui en a reçu trop en vendra. Et donc c'est ce rapport entre l'offre et la demande qui va fixer le prix du droit à polluer.
Donc ce système-là doit permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.
Alors c'est l'objectif qui est affiché, puisque si les gouvernements donnent plus ou moins de quotas, on a dans la théorie une régulation qui se fait. Le problème, c'est qu'à Kyoto, un certain nombre d'États a pris des engagements de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les États développés, et que les États en développement n'ont pas accepté de réduction. Ce qui peut apparaître légitime, puisque les États industrialisés ont quand même pollué pendant des décennies. Du coup, on a un marché qui n'est pas un marché mondial. Et donc, on a toujours des paradis de pollution, comme on a des paradis fiscaux, dans lequel les entreprises peuvent aller s'installer pour continuer à polluer. Donc même si on réduit le nombre de quotas, tant qu'on n'a pas un système qui concerne tout le monde, eh bien on aura toujours des possibilités de délocaliser la production dans des pays où on peut polluer. Et puis surtout, on a créé une mécanique qui est fondamentalement spéculative, parce que ce n'est pas simplement des entreprises qui achètent et vendent des quotas sur ce marché. On a aussi des fonds d'investissement, des fonds spéculatifs qui se sont créés pour spéculer sur la tonne de carbone, sur le droit à polluer, et où l'objectif, c'est uniquement de faire de l'argent, c'est-à-dire d'acheter le titre, et là en l'occurrence un droit à polluer, mais ça pourrait être du pétrole, ça pourrait être du blé, c'est pareil, d'acheter un titre le moins cher possible et de le revendre le plus cher possible. Et donc, on a une spéculation sur ce marché, et du coup, un marché qui n'atteint pas ses objectifs, et avec des côtés extrêmement pervers, des gens qui font de l'argent, des bénéfices, sur la lutte contre le changement climatique.
Et comment ces droits à polluer sont créés? Comment les entreprises ont du carbone à vendre?
Alors, c'est les États qui distribuent ces quotas aux entreprises, comme pour les autres quotas qui existent. Donc l'État français décide de filer un certain nombre de quotas à un cimentier, par exemple, à un chimiste. Donc il répartit les quotas, Les autres États européens font pareil. Quand les États-Unis vont rentrer dans le marché, ils feront la même chose. Donc on attribue des quotas. Alors évidemment, on a du lobbying, comme d'habitude. Et donc les industriels font du chantage aux délocalisations notamment et réclament des quotas en quantité suffisamment importante. Et ils les obtiennent. Mais après, c'est la seule intervention de l'État. Et derrière, c'est le marché, les acteurs du marché qui vont faire le prix de la tonne de carbone et qui vont organiser le marché entre eux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système a été adopté pour éviter justement toute intervention de l'État, toute régulation du commerce international. Et donc c'était le seul moyen de donner le change et de faire semblant de lutter contre le changement climatique en ayant un système qui soit compatible avec le capitalisme néolibéral, c'est-à-dire où on confie au marché le soin de résoudre la crise environnementale qu'il a lui-même créée.
Alors, on va revenir sur ce problème de fond et cette argumentation aussi qui a un impact direct sur les négociations de Copenhague au niveau des Nations Unies. Dans l'atelier tout à l'heure, on a parlé également de colonialisme, parce qu'en fait, ces entreprises investissent également dans les pays du Sud, donc elles devraient permettre aux pays du Sud de se développer. Comment ça fonctionne ce mécanisme? Comment une entreprise travaille avec ces pays du Sud?
Alors, il y a un mécanisme qui a été inventé à Kyoto, qui s'appelle le mécanisme de développement propre, et qui permet à un investisseur occidental d'investir dans un projet dans des pays émergents ou des pays en voie de développement, sur des projets qui vont moins polluer que la moyenne dans ces pays-là, ce qui des fois n'est pas difficile, hein, parce que moins polluer que la moyenne chinoise, c'est pas très contraignant, mais en contrepartie, on fait tourner la planche à billets, c'est-à-dire qu'on donne des nouveaux droits à polluer supplémentaires qui sont créés. Et donc, les investisseurs vont dans ces pays-là parce que les coûts d'investissement sont largement inférieurs aux coûts européens, notamment les gens sont bien moins payés. Donc, pour récupérer une même quantité de quotas, il vaut mieux aller en Chine faire un projet de ce type-là que de réduire les émissions dans les pays industrialisés.
On a une idée du coût que représente une tonne de carbone évitée, par exemple, entre l'Europe et des pays comme la Chine ou l'Inde?
Oui, ça a été chiffré par des économistes. Donc en Europe, le coût moyen dans l'industrie, c'est 80 euros d'investissement pour économiser une tonne de gaz à effet de serre, c'est en moyenne évidemment. Et en Chine, c'est 3 euros. Et encore, j'ai rencontré des investisseurs qui m'ont expliqué qu'ils avaient fait des opérations encore plus intéressantes où ils étaient descendus en dessous de 1 euro la tonne évitée. Donc on récupère à quelques euros un droit à polluer qu'on va revendre sur les marchés et qu'on va revendre avec des bénéfices, puisque sur les marchés à terme, on est sur un prix autour de 15 euros. Et donc on a eu ce mouvement spéculatif et avec derrière des projets qui se font dans des conditions absolument incroyables, où effectivement on va déplacer des populations, localement les gens sont absolument pas consultés, on a même des projets qui sont fraudés. C'est-à-dire des projets qui n'ont pas amené de véritable réduction de gaz à effet de serre.
C'est quel type de projet pour avoir une idée?
Alors on a différentes choses, soit des énergies renouvelables, soit des rénovations d'usines pour mettre des filtres, des traitements pour piéger les gaz à effet de serre, soit du captage de gaz de décharge, voilà, donc différents types de projets. Il va rentrer une nouvelle catégorie de projets, enfin deux nouvelles catégories même à Copenhague, c'est la gestion des forêts. Donc en fait, quand on préservera des zones de forêt, on récupérera des droits à polluer supplémentaires qu'on pourra revendre. Et c'est également le captage et la séquestration du carbone, qui consiste à récupérer le gaz à la sortie des cheminées et à le stocker dans le sous-sol. Donc on est dans un système ahurissant où au lieu de changer le mode de production, on cache le dioxyde de carbone et on évite que ce soit émis dans l'atmosphère, mais on le met dans le sous-sol avec des risques de fuite, de sécurité, etc.
On va le cacher sous le tapis, quoi, grosso modo.
Exactement. Encore une fois, parce qu'on ne veut pas toucher au cœur du système et au mode de production et d'organisation du commerce international. Et donc, pour préserver, par exemple, une forêt qui va émettre des droits à polluer, enfin, qui va donner des droits à polluer aux investisseurs, eh bien, on n'hésite pas à déplacer des populations, à leur interdire d'exploiter la forêt comme ils faisaient à leur échelle, simplement pour survivre. Et étant donné qu'on va englober bientôt la culture des terres, le monde agricole va être également concerné. Et donc, les agriculteurs vont devoir composer avec ce marché du carbone et avec tout ce qu'on peut prédire et qui s'est déjà réalisé pour d'autres choses, l'expropriation des paysans, le rachat des terres par des grandes multinationales ou par des grandes ONG, qui est quelque chose qui a déjà commencé, même avant Copenhague, avant que le dispositif soit en vigueur.
Donc en fait, on a un système capitaliste pour essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre qui en fait permet de générer du profit pour ces entreprises, donc qui du coup ne vont pas limiter leurs émissions. Et ce système-là est en train de s'étendre à la forêt, à l'agriculture. Donc c'est un système de fond qui s'est mis en place. C'est, quand on parle de capitalisme vert, c'est un des exemples concrets du système.
Il y a les deux éléments. C'est-à-dire que le capitalisme vert, c'est les marchés de droits à polluer avec une avancée spectaculaire dans la marchandisation du vivant. C'est-à-dire que le capitalisme a toujours besoin de nouveaux marchés. Et donc, on en crée des nouveaux. Et là, on a touché au summum avec un marché sur la pollution. Et puis, l'autre aspect, eh bien, c'est toujours l'accumulation. Et notamment le fait de concentrer un certain nombre de technologies qui sont intéressantes dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, évidemment dans les mains des grands groupes. Et donc c'est pour ça qu'ils rachètent tous des fabricants d'éoliennes, des fabricants de capteurs solaires. Et donc ils sont en train de mettre la main sur ce marché pour en tirer des bénéfices. Hein. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent pas. Et ce qui est assez inquiétant de mon point de vue, c'est que bon, le capitalisme est dans une période difficile. Il est de plus en plus critiqué parce qu'à force de provoquer des crises, bon, forcément les gens s'aperçoivent que c'est un système destructeur. Et avec l'alibi de la crise environnementale, on risque d'avoir une nouvelle phase du capitalisme qui non seulement va se repeindre en vert, ça a déjà commencé, mais qui en plus va aller plus loin dans la privatisation, dans l'exploitation. Et sans rien changer par ailleurs, parce qu'on a toujours la reproduction des rapports de domination entre le Nord et le Sud. Par exemple, les agrocarburants, on va aller les cultiver en Afrique, parce que là-bas, il y a de l'espace, parce qu'on peut faire de la monoculture, mais on va les consommer en Europe. On va aller implanter des projets photovoltaïques dans le désert pour alimenter l'Union européenne. Donc, on reproduit le schéma de domination. Et bien sûr, on reproduit le schéma, on continue le schéma d'exploitation des salariés et on continue dans une répartition totalement inéquitable des richesses. Et on le voit bien en France avec la taxe carbone, quand il s'agit de faire payer le coût d'un minimum de protection de l'environnement, eh bien, on choisit encore de taxer le consommateur, le citoyen, et d'épargner les grandes multinationales.
En effet, c'est un système très global de contrôle également qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Copenhague arrive. Est-ce que Copenhague, avec cet accord qui doit prendre la suite du protocole de Kyoto, peut être le moyen d'arrêter ce système, par exemple?
Alors, je pense qu'il ne se passera rien à Copenhague. En tout cas, il n'y a rien à attendre des États qui vont négocier à Copenhague, hein, puisque tout est déjà écrit. On ne sait pas s'il y aura véritablement un accord, mais en tout cas, s'il y a un accord, on en connaît la teneur. Ça sera la continuité de la bourse du carbone, ça sera la continuité de la croissance verte, donc quelque chose de tout à fait détestable. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je passe mon temps à essayer d'expliquer que si on veut résoudre la crise environnementale, il faut renverser le capitalisme. Parce qu'on peut faire tous les gestes éco-citoyens qu'on veut, on peut faire tous les jolis films où on filme la Terre vue du ciel. Il y a un système qui est fondamentalement destructeur de l'environnement et qui détruit de plus en plus, et qui détruit également la société humaine. Et que si on n'en sort pas, on ne résoudra pas la crise environnementale en mettant simplement des éoliennes ou en changeant nos comportements individuels. Donc à partir de là, ça veut dire qu'il faut casser ce sur quoi le capitalisme s'est basé pour se construire et pour s'étendre. Et notamment, il faut casser cette logique du libre-échange. Alors même si le capitalisme existait avant le libre-échange, mais ça a donné une dimension tout à fait différente, puisque maintenant les grandes multinationales, parce que on a développé des systèmes de transport, de communication, mais aussi parce qu'on a dérégulé, donc on a pris tout un tas de décisions politiques, peuvent aller s'installer dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, produire ce qu'elles veulent, comme elles le veulent, en polluant, en exploitant les salariés, le vendre partout sur la planète. Et qu'elles n'ont plus quasiment aucune entrave. Et donc il faut inverser cette logique-là et aller sur un commerce qui soit véritablement juste, et où donc on fasse payer aux multinationales qui délocalisent le coût de ces délocalisations, c'est-à-dire le coût humain et le coût écologique. Et voilà, donc on est un certain nombre à commencer à dire que comme on réclame la souveraineté alimentaire pour l'agriculture, il faut aussi réclamer la souveraineté industrielle, c'est-à-dire accepter le fait de taxer les importations, d'en interdire certaines, de relocaliser la production industrielle pour pouvoir la mettre sous contrôle démocratique. C'est-à-dire que pour que les citoyens puissent choisir ce qu'on produit, ce qu'on ne produit pas, dans quelles conditions on le produit, et bien sûr... Le pendant de ça, c'est de se servir de ces mesures de protection commerciale pour négocier avec les autres États et pour négocier dans le sens de plus de justice sociale et de plus de protection de l'environnement. Et si on doit avoir des revendications pour Copenhague, et puis après Copenhague, parce que ça ne sera pas terminé à Copenhague évidemment, c'est bon, évidemment, il faut fermer la bourse du carbone, qui est une absurdité, mais c'est surtout la régulation du commerce international. Et voilà, avec des mesures, même si au départ elles sont unilatérales, mais des mesures qui aient du sens. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien ce que donne la négociation internationale. Tout le monde a accepté ce jeu de la concurrence, contraint et forcé, ou alors en ayant intérêt à ce que ça se passe comme ça, et on est prisonnier, c'est-à-dire qu'on ne peut plus taxer les grands groupes en Europe, parce que sinon, ils menacent de délocaliser. On ne peut plus taxer les importations, parce que sinon, on va avoir des levées de boucliers en disant voilà, on remet en cause la libre circulation des marchandises, des capitaux, etc. Il faut vraiment sortir de ce modèle-là, et je crois que le premier pays qui osera sortir du libre-échange, le revendiquer, en entraînera d'autres derrière lui, et c'est à partir de là qu'on pourra créer une autre génération d'accords internationaux qui seront bien sûr des accords de coopération entre États, et qui permettront, j'espère, de résoudre la crise environnementale.
Donc l'un des messages pour lutter contre le capitalisme vert, ça serait aux urnes et citoyens.
Oui, moi je pense fondamentalement que ça passera par le politique, parce que les changements de comportement individuel qui sont très importants, c'est très bien, mais on ne fera pas tomber Monsanto ou Total, on ne viendra pas à bout de grandes multinationales comme ça, simplement en changeant nos comportements individuels, ou alors on repousse tout changement réel à quelques décennies, voire plus. Et puis on voit bien que l'idée d'une autre mondialisation avec une convergence des luttes au niveau international, c'est pareil, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et il reste un espace où peut s'exercer malgré tout la démocratie, c'est l'espace étatique. Et donc, si on veut reprendre le pouvoir aux grandes multinationales, il faut faire l'inverse de ce qu'elles ont fait. Elles ont passé 30 ans, 40 ans à essayer de casser le pouvoir politique. Il faut reconstruire du pouvoir politique. Et le plus rapide, parce qu'il y a les institutions, c'est de le faire au niveau des États. Mais après, ce n'est pas un but en soi. Ça veut dire évidemment que si on arrive à mettre en place un gouvernement de gauche radicale dans un État comme la France. L'objectif, bien sûr, c'est d'entraîner d'autres États au niveau de l'Europe et de créer une toute autre politique entre États et de poser les bases, effectivement, de cette autre Europe, de cet autre monde qu'on voudrait construire. Mais si on prend le problème dans l'autre sens, en disant, voilà, la politique, ça a plus de sens, l'État a plus de sens, et soit on renvoie à des comportements individuels, soit on renvoie à une convergence des revendications des peuples de la planète, eh ben on renvoie tout changement à des temps extrêmement lointains. Donc le politique, oui, alors pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, mais ça sera, enfin c'est la seule réponse crédible à court terme.
Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces pistes de solutions et de réflexions. Donc je rappelle le titre de l'ouvrage, c'est Le climat, otage de la finance, par Aurélien Bernier. C'est aux éditions
Mille et une nuits.
Merci.
Merci.